une pierre. Deux coups. Une émission mensuelle proposée par le Parc naturel régional des Causses du Quercy, un mardi par mois à 17h30, en rediffusion le mercredi à 10h. La plage au Ptérosaure est un site paléontologique unique au monde. À Cressac, à 10 minutes de Cahors, sur les hauteurs de la vallée du Lot, cette ancienne plage, vieille de 150 millions d'années, a enregistré les empreintes laissées par des dinosaures, ptérosaures, crocodiliens, tortues et crustacés. À la fois gisement paléontologique, exceptionnel, musée de site, structure de protection et de conservation, support pédagogique et site touristique original, le gisement paléo-ichnologique de Cressac, surnommé la plage au ptérosaure, offre un très haut potentiel de développement scientifique, patrimoniaux, pédagogique, culturel et touristique. Le spectre des développements possibles est très large et nécessite une approche globale prenant en compte tous les aspects et toutes les particularités du lieu. Cela étant dit, toute réflexion sur cette souhaitable gestion globalisée du site doit prendre en compte une hiérarchisation de fait. La plage au Ptérosaure est un site scientifique et patrimonial sur lequel des activités de développement touristique et pédagogique sont souhaitables. En d'autres termes, la première mission du site est la protection du patrimoine adossé au développement scientifique. Nous allons en parler dans cette nouvelle émission d'Une pierre deux coups, l'émission qui fait parler les cailloux, avec Jean-Michel Mazin, paléontologue, directeur de recherche au CNRS, très investi dans la Villotoise puisqu'il est membre du conseil scientifique et de prospective du PNR. Il est membre et président également du conseil scientifique de la réserve. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Alors, nous allons parler de cette fameuse plage au Ptérosaure et j'aimerais savoir déjà pourquoi ce site est-il exceptionnel et quelles sont les caractéristiques de ce site ?
Ah, exceptionnel, il est à plusieurs titres. Les sites paléontologiques, qu'on appelle des gisements en général, sont presque toujours des sites uniques en leur genre. Donc c'est facile de dire qu'un site paléontologique, un gisement paléontologique est unique au monde. Dans le cas présent, il se passe que c'est vrai, que c'est totalement vrai. Qu'il s'agit d'un endroit, d'une petite fenêtre ouverte sur le temps profond, 150 millions d'années, c'est pas hier, c'est le Jurassique, à la fin du Jurassique, un mot célèbre. C'est une fenêtre qui est ouverte, c'est-à-dire en dégageant, en préparant le sol sur lequel des animaux ont marché, le sol boueux, en préparant tout ceci, en le mettant au jour, c'est exactement comme si on avait un Polaroid, une photo d'une vasière actuelle avec toutes les empreintes d'oiseaux qui se baladent dans la vasière. Et là, ce ne sont pas des oiseaux, mais ce sont des crocodiles, des dinosaures, des ptérosaures et plein d'autres bestioles qui ont marché là il y a 150 millions d'années. Ce site est donc, en quelque sorte, même pas en quelque sorte d'ailleurs, ce site est donc unique au monde, sous sa forme. Même les Chinois, même les Américains n'en ont pas un comme ça. Alors on se le garde jalousement, et il y a beaucoup de travail à mener dessus, beaucoup de travail scientifique, parce qu'il faut lire tout ceci, il faut lire ces empreintes, il faut lire ces pistes laissées par les animaux, et puis il y a tout un travail de protection, de gestion du patrimoine, car c'est un patrimoine unique en son genre également. Voilà, et puis ensuite il y a tous les développements, effectivement, développement d'action, de retour vers le public, c'est-à-dire le tourisme en fait, mais d'un tourisme très particulier, d'un tourisme culturel, d'un tourisme s'intéressant aux cailloux, ce qui n'est pas très très fréquent encore pour l'instant.
Alors justement, ce site pour l'instant est fermé suite à cette crise sanitaire, mais quel est son statut actuel ?
Alors le statut actuel de ce lieu, de ce site, moi, j'ai tendance à dire, dans un premier temps, c'est un bien de l'humanité. Voilà. Mais là, malheureusement, il n'y a pas de définition mondiale, quoique, pour marquer, définir, reconnaître un bien de l'humanité. Alors, le site lui-même appartient à la communauté de l'agglomération du Grand Cahors, qui, dans un premier temps, a reçu en don la carrière initiale, ça j'aime bien le rappeler, M. Antoine Pereira, le carrier propriétaire du site, en 1996, nous en a fait don. Il nous a dit, avec son bel accent portugais, nous a dit que si on y trouvait des choses aussi intéressantes que cela, il ne fallait pas que lui les détruise. Et il nous a fait don de cette carrière. Bien sûr, nous, chercheurs, on n'a pas pu la recevoir, on n'a pas souhaité non plus la recevoir. Donc, ce sont les élus et les collectivités qui l'ont reçue. Et aujourd'hui, c'est la communauté d'agglomération du Grand Cahors qui est propriétaire de ce site et qui a mené d'ailleurs aussi une politique d'acquisition foncière, qui a acheté des parcelles autour. Voilà, ça c'est un aspect. Ensuite, le deuxième aspect, c'est qu'au-delà de cette propriété, il y a maintenant une réserve, c'est-à-dire ce site est sanctuarisé et fait partie de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot. Donc ça fait un deuxième aspect. Ça, ce sont les aspects, on va dire, juridiques. Ensuite, il y a, comme je le disais tout à l'heure, les aspects un peu plus difficiles à palper, qui sont un site unique au monde, qui nous raconte une histoire unique au monde, et qui doit réellement être sanctuarisé. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le public, lorsqu'il nous visite, et lorsqu'on en parle avec eux, les visiteurs sont tous, unanimement d'accord pour sanctuariser, pour fermer, enfin protéger, etc. etc. D'ailleurs, ça passe très bien, cette notion de protection. Voilà.
Qu'est-ce que nous raconte réellement ce site ?
Alors, ce site nous raconte une histoire, en fait. Il nous raconte quelques journées d'une plage qui était installée là à l'époque, puisque au Jurassique, la mer montait et couvrait une grande partie du bassin d'Aquitaine. Cette plage n'était pas une plage de sable, mais une plage de boue, comme il en existe aujourd'hui. On appelle ça une vasière. Il y en a plusieurs sur la façade atlantique, par exemple. Et comme aujourd'hui, avec nos oiseaux, eh bien, des animaux venaient à marée basse pour récupérer les poissons abandonnés par la mer, enfin, les petits crustacés, etc. etc. Et ces animaux qui venaient, c'était eh bien, des dinosaures, des petits dinosaures de la taille d'un homme à peu près, plus gros. Il se serait profondément enlisé, quoi, ça serait marrant d'en trouver un au bout de sa piste, mais bon. Des tortues, beaucoup de tortues, des crocodiles également. À l'époque, tortues et crocodiles vivaient donc sur nos côtes, enfin les côtes de ce qui deviendra plus tard cette région. Et puis ces ptérosaures, c'est-à-dire ces reptiles volants, cousins des dinosaures, que tout le monde a vus, hein, mais qui sont un peu moins célèbres que les dinosaures, quoique, les gens les aiment bien aussi. Et ces ptérosaures, donc, avec leur grande tête, leur long bec, plus ou moins armé de dents, des ailes qui fait que ça ressemble un peu à des cerfs-volants, des animaux tout à fait extraordinaires, qui ont quand même dominé les airs sur notre planète, les cieux, pendant 160 millions d'années, quoi. Donc, cette plage aux ptérosaures, c'est ça. Je le disais tout à l'heure, c'est un polaroïd, c'est une photo d'une vasière datant de 150 millions d'années. Et si on s'étend latéralement, on peut encore agrandir, ce qu'on ne fait pas pour l'instant, car il faut protéger, bien sûr. Hein. C'est pas à peine de mettre des empreintes au jour si on ne peut pas les protéger.
Est-ce que ça nous raconte aussi l'histoire de ces animaux aujourd'hui disparus ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous, paléontologues, bien sûr, nous sommes habitués à extraire des fossiles, que ce soit des coquilles, l'ammonite, très célèbre, que ce soit des ossements de dinosaures, des choses comme ça. Tout le monde a vu ces images, plus ou moins d'Épinal, où on voit les paléontologues couchés avec leurs petits pinceaux en train de nettoyer les ossements. La réalité n'est pas toujours celle-ci, même pas souvent d'ailleurs, hein, c'est-à-dire les fossiles que l'on extrait à coups de pinceau, ça n'existe pratiquement pas. Nous travaillons avec des masses, des marteaux, des burins, etc. Voilà, c'est du caillou quand même tout ça, hein. C'est minéralisé, donc c'est dur. Et sur la plage aux ptérosaures, c'est différent. On n'extrait pas d'ossements, puisqu'il n'y en a pas, pour des raisons sédimentaires, des raisons d'enregistrement de cette plage. On n'extrait pas d'ossements, mais on nettoie des surfaces. C'est-à-dire on travaille millimètre après millimètre de grandes surfaces et on enlève tout ce qui gêne à la surface, des petites couvertures, comment dirais-je, de sédiments. On enlève ça au marteau, à l'aiguille, au micro-burin. Travail très très fin. Et puis les empreintes apparaissent les unes derrière les autres au fur et à mesure que l'on nettoie les surfaces. Et il se passe que c'est une zone de battement des marées, donc, hein, c'est-à-dire la mer monte, la mer descend, la mer monte, la mer descend. À chaque fois que la mer monte et redescend, elle dépose un fin film de boue sur la journée précédente, etc., etc. C'est-à-dire on a un empilement comme ça d'environ 1,20 m de très petits feuillets. On parle de calcaire feuilleté, de très petits feuillets, donc, qui chacun représente, quand on les regarde au microscope, représente 7 ou 8 journées successives, 7 ou 8 marées successives. Donc, à l'extrême, au moment où nous serons prêts, on pourra presque dire, tiens, cette petite bestiole a marché un matin de printemps, ou cette bestiole-là, ce dinosaure est venu visiter, je ne sais pas, une journée d'hiver, etc. Bien que printemps-hiver, à cette époque, ce n'était pas aussi marqué qu'aujourd'hui. Voilà, donc, c'est un site merveilleux qui permet à la fois d'arriver à des résultats intéressants, et notamment à tout ce qui concerne la locomotion et la cohabitation, c'est-à-dire des aspects environnementaux. En ce qui concerne donc ces empreintes de pas, tout le monde a vu des empreintes de pas quand nous les faisons nous sur la plage ou dans de la boue. Ces empreintes de pas ont été exceptionnellement conservées et elles nous racontent une histoire. Elles nous racontent l'histoire de quelques secondes ou quelques minutes d'un animal qui marche. Et ça nous permet ça d'extraire, nous paléontologues qui la plupart du temps extrayons des ossements, et bien là c'est des instants de vie. Une petite bête qui marche sur 3 mètres de long, qui nous fait 60 pas successifs. On a tous les outils mathématiques pour, avec la longueur de son pied, la longueur de l'enjambé, etc. On a des petites formules, des petites équations qui nous permettent par exemple de calculer la vitesse à laquelle l'animal est passé. Et puis décrypter son cycle de locomotion. Pour les petits dinosaures bipèdes, c'est facile, ils avaient deux pattes, marchaient comme nous ou comme une autruche. Mais ces petits ptérosaures, ils étaient bien compliqués, empêtrés avec leurs grandes ailes et tout. Et c'est ici que l'on a mis en évidence la locomotion des ptérosaures en 1995-97. Donc on a pu démontrer pas mal de choses de ce genre. Mais une plage comme celle-ci, une plage fossile comme celle-ci, donc, nous permet surtout d'accéder à des données, à des conclusions qu'on ne peut pas obtenir à partir des ossements. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ces notions de vitesse, ces notions d'alternance, de cycle de locomotion, tout ça, on ne peut pas y arriver à partir de squelettes aussi beaux soient-ils.
taille faisaient ces animaux, les ptérosaures? Ils étaient grands ou petits
Ah. Alors, les ptérosaures, d'une manière générale, c'est un groupe assez extraordinaire, c'est un groupe fantastique. Ils apparaissent au Trias il y a environ 220 millions d'années, puis disparaissent à la fin du Mésozoïque, de l'ère secondaire, il y a 60 millions d'années, en même temps que les dinosaures, etc. Pas tous d'ailleurs. Et donc, ils ont été vraiment les maîtres des cieux pendant très très longtemps. Et ces ptérosaures on en connaît de nombreux fossiles, de nombreuses espèces, environ 200 espèces fossiles pour l'instant. Et ces ptérosaures, donc, il y en a eu de toutes les tailles, c'est ça qui est assez impressionnant. Il y avait du tout petit ptérosaure, grand comme un moineau, par exemple. On a des petits squelettes fossiles. Et puis il y a eu des dinosaures gigantesques, absolument gigantesques, à la fin du Mésozoïque, peu de temps avant leur extinction d'ailleurs. Des bestioles en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient actuel, des bestioles qui atteignaient 10, 11 mètres d'envergure. Le plus grand oiseau actuel, c'est l'albatros hurleur, et il fait un petit peu plus de 3 mètres. Donc là, on avait 10 à 11 mètres d'envergure, c'est plus grand, c'est une envergure plus grande que celle d'un petit avion de tourisme, vous voyez. C'est des bêtes tout à fait extraordinaires. C'est pas ces bêtes-là qui ont marché à Cressac, pour plusieurs raisons. D'abord, les grands, les géants n'existaient pas encore vraiment à la fin du Jurassique. Et puis, surtout, dans une vasière, si des bestioles trop grosses, trop lourdes s'aventuraient, elles s'enliseraient. D'ailleurs, les animaux n'y vont pas. Et donc, on a des dinosaures que des dinosaures carnivores, c'est logique aussi. Il n'y a pas d'herbe à manger sur une vasière, il n'y a que des proies à récupérer. On a donc des petits dinosaures carnivores qui, pour les plus gros, Arthur, parce qu'ils ont des petits noms, c'est plus sympa que les numéros de collection. Pour les plus grands, donc, on a la taille d'un homme à peu près. On va dire des petits dinosaures de 80 à 100 kilos, pas plus. Les ptérosaures, on a des animaux qui, pour les plus gros, qui sont la taille d'un goéland à peu près. Les plus petits, celle d'un merle. Les tortues, on a presque que de toutes petites tortues, on va dire de 10-15 cm. Une ou deux empreintes nous signalent l'existence de plus grosses tortues dans le coin, mais on n'en a pas plus. Les crocodiles aussi. On a des crocodiles, on connaît bien les crocodiles par leurs fossiles, il y en a eu trouvés dans la région aussi. Les crocodiles sont plutôt les petits crocodiles, ceux qui habitent notre vasière. Ce sont des petits animaux de 70-80 cm de long. Et on se pose d'ailleurs la question de savoir s'il s'agit de jeunes animaux, de juvéniles, de petits crocodiles en pleine croissance, quoi, ou d'une espèce naine. Voilà, ça, on aura la réponse un jour ou l'autre. Voilà, c'est toutes les questions qui sont générées par la plage Octérosaure.
C'est fabuleux de vous écouter. Et on sent qu'il y a une passion qui anime aussi, qui vous anime, cette passion de chercheur, de scientifique. Est-ce qu'on a, quand on a fait une carrière comme la vôtre, est-ce qu'on a le sentiment d'avoir trouvé des choses, ou est-ce qu'on est toujours en perpétuelle recherche?
Oh, la question n'est pas facile. Je suis très content de mon parcours. Je suis très satisfait de tout ce que j'ai pu faire. Travailler un peu partout, les questions du terrain, etc. Mais c'est le cas, je pense, de tous mes collègues également. L'autre aspect, c'est que c'est trop court une vie, quoi. Ouais. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis pas mal, comment dirais-je, efficace, voilà, l'âge venant, l'expérience venant, et ben, c'est aujourd'hui qu'il faut arrêter, quoi. Donc, donc voilà, ça c'est un petit aspect personnel, je sais, pour en avoir discuté avec eux, que beaucoup de collègues sont dans la même situation. Donc on est très content de notre carrière, on a globalement l'impression d'avoir été utile, que ce soit modestement ou moins modestement, mais globalement, bon, restons modestes, on a été utile, et puis on aimerait bien que ça continue, quoi, encore un petit peu.
Sur ce site, qui a été ouvert, on va dire, dans les années 80, c'est ça?
Découverte dans les années 80.
Découverte
oui.
dans les années 80.
Et l'ouverture du chantier dans les années 90. Voilà.
J'imagine qu'il y a eu aussi des passations. Comment se fait la passation de savoir, de recherche, depuis une quarantaine d'années,
Depuis qu'on a trouvé le site.
Est-ce qu'il y a une évolution ?
C'est tout le problème de la paternité des découvertes, dans beaucoup de disciplines scientifiques d'ailleurs. Hein. Qui a trouvé quoi et où on en est aujourd'hui ? Est-ce que seul aurait pu continuer, etc., etc. Ce site a été découvert par une personne, un amateur tout à fait performant, Gérard Laforie, Figeacois d'ailleurs. Voilà. Mais il a été suffisamment malin pour nous apporter cette découverte. Alors à l'époque, j'étais à l'université de Poitiers avec un collègue qui s'appelle Pierre Hansberg, on travaillait ensemble, on était bons copains. Et c'est à nous qu'il a présenté Gérard Laforie, parce que je l'ai connu lorsque j'étais étudiant par hasard, qu'il a présenté cette découverte, et déjà, en nous la présentant, il partageait la paternité, déjà. Nous y voyons, on était trois, ça y est. Puis ensuite, eh bien, il nous a bien fallu, monter une opération. Lorsque j'ai décidé de monter une opération à long terme, c'est-à-dire de trouver de l'argent pour aller loin, parce que ce site, il sentait vraiment très bon, il a fallu partager la découverte avec d'autres personnes, des élus, et très logiquement d'ailleurs, c'est eux qui nous trouvaient l'argent pour travailler. Bon, il était logique qu'ils deviennent copropriétaires, etc., etc. Et puis, le temps passant, aujourd'hui, nous en sommes, je ne sais pas combien, mais des dizaines et des dizaines de personnes qui pourraient revendiquer une partie de paternité sur ce site. En fait, encore une fois, je pense qu'il n'appartient pas à nous, mais à l'humanité. Et notre rôle à nous, c'est de le préserver, de le transmettre, voilà, de façon à ce que les générations qui suivent, on a des jeunes derrière nous, hein, ils sont bons, donc les générations qui suivent continuent le travail, continuent et aillent beaucoup plus loin et nous sortent le plus de données possibles de ce site aussi particulier, aussi extraordinaire, quoi. Donc voilà, la paternité, il faut savoir la partager.
Alors du coup, on en vient au projet, parce que il y a quand même un projet de développement scientifique et patrimoniaux pour les années futures, c'est ça ?
Oui. Oui, alors, le projet actuellement est en évolution, c'est-à-dire, je crois qu'un groupe va être formé, mais là je ne peux pas me prononcer sur tout ça, je ne sais pas du tout, mais il est assez évident que la volonté de tous les acteurs qui sont réunis autour de ce projet, c'est véritablement de monter quelque chose de tout à fait extraordinaire, quoi. Mais ça demande effectivement des discussions, ça demande des échanges d'idées, ça demande de trouver beaucoup d'argent, et la période n'est pas du tout favorable. Bien qu'à mon avis, on peut faire tourner ce site tel qu'il est là actuellement, déjà. Enfin, voilà. Donc, il y a un projet, ça on le sait. Il y a eu un projet dans les années qui viennent de passer, il y a un nouveau projet qui se met en place. Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Hein. Mm-hmm. Mais la volonté est là. Voilà.
En tout cas, ça nous donne vraiment envie d'aller voir cette plage aux ptérosaures. On a hâte que ce site réouvre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt.